Silbara.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Si vous êtes une association ou une ONG africaine qui se bat au quotidien en faveur de l'environnement, la deuxième partie de l'émission va vous intéresser. L'Union internationale pour la conservation de la nature et le Fonds français pour l'environnement mondial aident financièrement des petits projets en Afrique. Rémi Gouin de l'UICN nous expliquera tout et les responsables d'associations au Gabon, à Madagascar et au Cameroun qui ont bénéficié de cette aide seront en direct avec nous pour témoigner de leurs actions au quotidien pour préserver l'environnement dans leur pays.
Est-ce que les ethnologues n'ont pas été, avant tout le monde, les premiers écologistes ?
Je pense que c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'école de peuples qui, eux-mêmes, sont des écologistes, qui ont réussi, au prix de toutes sortes de pratiques que nous jugeons superstitieuses et avec un peu de dédain, mais à se maintenir en équilibre avec le milieu naturel. Vous savez, quand parmi ces peuples que nous étudions, comme ceux d'Amérique du Sud et également du Nord, il existe des croyances en un maître des animaux qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tuerait plus qu'il n'est strictement nécessaire. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés.
L'anthropologue Claude Lévi-Strauss au micro de Bernard Pivot en 1984. Claude Lévi-Strauss s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 100 ans. Bonjour Walter Bouvet.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel écologique Terra Eco. L'œuvre de Claude Lévi-Strauss est immense. Il a tenté de changer la vision du monde occidental en publiant de nombreux ouvrages, dont Triste Tropique en 1955. Il s'est battu pour créer des ponts entre les peuples. Et dès 1955, son constat était assez fataliste puisqu'il écrivait « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui ».
J'espère que cette prophétie, évidemment, ne se réalisera pas. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui essaient de contribuer à un éveil sur ces questions. Maintenant, la réalité, triste, les faits assemblés sous nos yeux, à l'heure où se prépare Copenhague à la fin de l'année et avec beaucoup de difficultés, semblent malheureusement lui donner parfois un peu raison.
Je me suis entièrement consacré à étudier les témoins d'autres temps et d'autres mœurs.
Alors avec qui aimeriez-vous passer une soirée, demain ?
Avec l'homme ou avec l'œuvre ?
Avec l'homme.
Avec l'homme, aucun.
Aucun ?
Aucun.
Mais c'est triste.
Ah non, là je vous dirais avec un chien, avec un chat.
À ce point-là ?
Oui.
Vous ne faites aucune confiance à l'homme, alors ?
Je ne crois pas que vous ayez de grandes raisons de faire actuellement confiance à l'homme.
Parce qu'il a tout détruit ? Il continue de le faire.
Ça, c'est une première raison. Mais écoutez, je le vois détruire tout ce à quoi je suis attaché. La nature, en tout premier lieu, la diversité des espèces, la diversité des cultures. Je sais très bien que tout ça appartient à une époque révolue.
Là aussi, hein, Walter Bouvet, c'est un constat amer que confiait Claude Lévi-Strauss à Jacques Chancel en 1971.
Amer et désabusé. Alors pour le coup, je pense que désabusé, il faut vraiment pas l'être parce que rien n'est perdu. D'abord, nous sommes toujours debout sur nos jambes et nous respirons. Donc,
oui, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que l'anthropologue qui s'est battu comme ça pendant des années pour essayer de faire changer les mentalités face au mur auquel il s'est trouvé, au bout d'un moment,
quand on atteint ce niveau de puissance intellectuelle, de vision du monde et de structuration de la pensée, cette capacité à analyser la façon dont nous vivons et dont nous vivrons peut-être, et que le seul écho qu'on a, entre guillemets, parce que c'est un peu plus que ça, heureusement, Lévi-Strauss, mais c'est ses commandes de jeans qui lui parvenaient d'Afrique, tout ça parce qu'il portait un nom qui était semblable à celui d'une marque de pantalon. Il y a quelque chose d'absolument ironique dans tout ça, mais qui est sans doute à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde s'effrite, et on continue à, on continue le festin comme si de rien n'était. Voilà. En ce sens, il a raison. Cela dit, je veux quand même rebondir sur cet événement, sa disparition, en disant que moi, ce que j'en retiens, c'est une figure. Aujourd'hui, on a besoin de figures, on a besoin de gens qui sont capables de nous montrer le chemin et qui sont capables de nous emmener. Voilà. Et donc, pour nous emmener, on a besoin de gens qui nous fassent envie. Voilà. Et pas seulement de gens qui nous disent je ne veux pas vous parler. Mmh. Alors, je comprends que lui en soit arrivé là, je comprends vraiment. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas ça.
Oui, puisque dans l'actualité, il y a les négociations internationales sur le climat qui se poursuivent à Barcelone. Ce sont les derniers jours de négociations à moins de 40 jours de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Copenhague début décembre. Et la tension est vive à Barcelone. Lundi soir, les pays africains ont quitté la table des négociations en accusant les pays industriels de ne pas donner d'objectifs chiffrés de leur réduction de gaz à effet de serre. Hier, ils sont revenus, mais l'Afrique, qui est le continent le plus exposé aux conséquences du réchauffement climatique, attend un signal fort des pays historiquement responsables du réchauffement de la planète. C'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné, et pourtant les faits sont encore une fois têtus. Quand on regarde cette question du changement climatique, vous savez qu'on parle du concept de dette écologique. Mmh. Hein, c'est-à-dire que les pays du Nord ont pendant des années cramé du pétrole et tiré des matières premières des pays du Sud, avec leur accord souvent néanmoins, en tout cas l'accord de leurs dirigeants. Et que aujourd'hui on est dans une situation où les principaux pollueurs sont des pays qui sont sur le plan économique développés. Nous, on a un certain confort, même on a tout le confort d'une certaine façon. Et les pays du Sud n'ont aujourd'hui, c'est même pas une question de confort, n'ont pas accès au minimum vital. C'est-à-dire l'éducation, les soins,
mais alors,
l'eau.
Ce constat, on le connaît. Là, on est face à un péril commun et on a l'impression que malgré tout cela, alors que le réchauffement climatique s'accélère sur la planète, à nouveau, les pays du Nord ne sont pas tout à fait prêts à justement reconnaître cette dette écologique.
Non, ils ne sont pas prêts parce que ça a toujours été comme ça dans les histoires des négociations internationales. Souvenez-vous du Fonds mondial de lutte contre le sida. C'était normalement 10 milliards ou 15 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on est à 1 milliard. On est dans des logiques d'apothicaire qui sont choquantes au regard des enjeux. Parce que nous avons les moyens, nous, pays riches, non seulement de changer, mais d'aider les pays du Sud à changer. Parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit que ces pays-là ne prennent pas la voie, en tout cas pas de la façon dont nous l'avons fait, ne prennent pas la voie que nous avons empruntée, parce que cette voie, elle est dangereuse pour tout le monde. Mais c'est pas tout de les aider à pas prendre cette voie, il faut peut-être que nous, on réfléchisse à changer de voie aussi. Mmh. Et donc, la balle est clairement dans le camp des pays riches. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion possible.
En attendant, c'est vrai que certains pays s'organisent pour répondre aux défis du changement climatique. C'est le cas du Maroc, qui vient de lancer un ambitieux projet de production électrique d'origine solaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. 2000 mégawatts pour un investissement de 2 milliards d'euros. 5 sites devraient être construits d'ici 2020. Selon le gouvernement, la production de ces sites devrait couvrir 42% des besoins électriques du pays, économiser donc 1 million de tonnes de pétrole et éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de gaz carbonique. Chapeau le Maroc.
C'est pas mal. Le solaire photovoltaïque, tout le monde sait que c'est pas parfait parce que quand on regarde un peu, il faut fabriquer les panneaux et voilà, c'est pas écologiquement parfait. Cela dit, qu'un pays du Sud décide de débloquer des moyens importants avec une action significative, ça nous renvoie, nous, encore à ce que nous faisons. Je dis nous, c'est pas seulement la France. Hein, c'est global et c'est vrai qu'en France, il y a le Grenelle et on y met des moyens, mais on sait aussi que c'est pas suffisant encore. On a encore à compter nos petits bouts de chandelle. Des projets de cette ampleur, il n'y en a pas aujourd'hui, en tout cas il n'y en a pas en France. Il y a quelques projets isolés, mais il n'y en a pas de façon forte et ambitieuse. Et donc effectivement, chapeau le Maroc, j'espère que d'autres pays du Sud pourront prendre de telles décisions. De toute façon, le Maroc, à mon avis, a calculé qu'il n'avait pas vraiment le choix. C'est aussi ça la question, c'est que là c'est un enjeu de survie.
Plainte qu'on n'entend. entendre de loin si on pouvait. Mais il y a tant de bruit ici, on n'entend plus que lui, le bruit blanc de l'été.
C'est pas du vent sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Walter Bouvet, rédacteur en chef du magazine Terra Eco. C'est le moment de notre zoom sur l'actualité environnementale d'un continent. Et comme tous les mercredis, direction l'Europe. Et c'est avec vous, Lucas Auchard, bonjour.
Bonjour.
Le climat, nous en parlions tout à l'heure, est de plus en plus présent, évidemment, dans l'actualité internationale et européenne. Le sommet de Copenhague se profile, c'est dans à peine plus d'un mois.
Oui, et ça s'agite notamment sur le front des ONG, des militants écologistes. Par exemple, des militants de Greenpeace, en fin de semaine dernière, ont déversé 18 tonnes de charbon allemand sous les fenêtres du Premier ministre suédois. C'était pour protester contre l'expansion sur plusieurs sites européens d'une entreprise de charbon, entreprise d'État, et pour pousser le Premier ministre suédois, alors que la Suède préside l'Union européenne, à se conduire en héros du climat lors de ses prochaines échéances.
Cette semaine, on a aussi vu se créer un site internet assez virulent contre la plupart des chefs d'État du G20, un site signé par les Verts européens et nommé Climate Circus.
Oui, c'est un site assez inattendu de la part d'un parti institutionnel comme les Verts. On y voit les leaders du monde occidental représentés comme une troupe de cirque. Nicolas Sarkozy est un prestidigitateur, pyromane et maladroit, Barack Obama en contorsionniste coincé, tandis que José Manuel Barroso en est réduit à la boule de cristal. Après leur petit numéro, pour chaque pays, on voit un encadré qui résume les conséquences environnementales et leur politique et leur approche du sommet de Copenhague. Et puis, il y a aussi leur empreinte écologique. Vous savez, Anne-Cécile, c'est comme quand vous achetez un lave-linge, il y a les lettres A, B, C, D, E. A, c'est vert, c'est bien. E, c'est rouge, ça passe pas. La Russie et la France, par exemple, récoltent un E, l'Allemagne un C, et seule la Norvège trouve grâce aux yeux des Verts avec un B, une curiosité à voir sur climatecircus.fr.
Dans le reste de l'actualité écologique européenne, cette semaine, vous nous parlez des friches industrielles.
Les industries naissent, fleurissent, prospèrent et enfin meurent. Et si le matériel et les ouvriers partent à ce moment-là, les sites et les sols qui les supportent restent là. Les entreprises s'en vont, souvent en abandonnant leurs responsabilités. Se pose alors le problème de réhabiliter ces sites où se mêlent pollution, ancienne fierté industrielle et histoire populaire.
Et sur ce sujet, donc, on part en Belgique.
Oui, il y a 4 ans, le gouvernement wallon s'est lancé dans un grand chantier d'assainissement des friches industrielles. En comptant la rallonge apportée l'an dernier, il y en a pour plus de 300 millions d'euros. Et l'enjeu, ce sont 37 sites à réhabiliter, rénover et dépolluer. Dépolluer car les friches industrielles sont bien souvent des milieux hostiles. Le quotidien belge Le Soir prend comme exemple un site de Charleroi qui accueillait un four à coke et à charbon. Dans les sols, aujourd'hui, on trouve des produits toxiques, cyanure, arsenic, hydrocarbures, métaux lourds, plus ici ou là quelques petits tas d'amiante. Le programme du gouvernement prévoit qu'il soit dépollué, ce site, d'ici un an et demi, pour accueillir de nouvelles activités économiques.
Et est-ce que ce plan va réussir à changer réellement le paysage industriel de la Wallonie ?
Eh bien, Cécile, comme on dit, c'est déjà bien d'avoir un plan. Mais oui. Une fois que ces 37 sites seront assainis, il en restera en Belgique à réhabiliter 3500. Et ce n'est pas propre à la Belgique, on en compte bien plus encore dans le nord de la France et aux Pays-Bas. Bref, la rénovation des anciens sites industriels, ce prix des industries passées, c'est une histoire sans fin.
Merci Lucas Auchard.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Walter Bouvet, la friche industrielle en Belgique.
Ouais, je pense que c'est intéressant, l'héritage du passé et le recyclage de cet héritage en territoire d'avenir. Voilà, ça fait partie d'une certaine forme d'écologie. Je trouve ça intéressant. Je voudrais juste revenir sur votre première info sur le charbon. Mmh. C'est vraiment une question centrale parce que aujourd'hui, on sait dans le cadre des négociations de Copenhague,
il y a Greenpeace qui a déversé des tonnes de charbon.
Voilà, Greenpeace qui déverse ce charbon. Aujourd'hui, on entend parler de charbon propre dans certains pays. Rien n'est plus faux que ça. C'est pas possible de parler de charbon propre. C'est l'une.
C'est-à-dire qu'on dit qu'on sait stocker le CO2 qui est émis par le charbon.
On sait aujourd'hui le faire dans le cadre de laboratoires ou d'expériences à petite échelle.
Et ça coûte très cher.
À l'échelle de l'utilisation qui est faite aujourd'hui du charbon dans le monde, rappelle la Chine qui ouvre une à deux centrales au charbon électrique, au charbon par semaine, on n'est pas du tout dans ce process-là, pas du tout. Or, tous les spécialistes du climat disent que la première mesure à prendre, si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux, demain, on est mercredi, c'est demain, jeudi.
Voir aujourd'hui.
Voilà, il faut fermer toutes les centrales à charbon du monde et pas attendre dans 25 ans un hypothétique projet de captage du CO2. Parce que ça, aujourd'hui, c'est pas au point. Et puis surtout, c'est des tels investissements que...
Vous parliez de la Chine, mais les États-Unis aussi fonctionnent massivement au charbon.
Tout à fait, je stigmatise pas du tout la Chine. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne. C'est vrai aussi en France, où la consommation de charbon augmente. Incroyable, on est en 2008-2009, la consommation de charbon pour les années à venir va augmenter. C'est ça notre réalité aujourd'hui. C'est complètement à l'opposé des effets de manche que l'on a dans les sommets internationaux. Et cette question du charbon, elle est centrale et scandaleuse.
Walter Bouvet, vous êtes donc rédacteur en chef de Terra Eco, qui est un mensuel de développement durable. Et vous vous dites que, voilà, dans votre mensuel, vous avez la rédaction est composée massivement de journalistes économiques. Et vous dites que voilà, il y a trois piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour communiquer sur ces sujets-là qui sont indissociables.
Voilà, le développement durable, la définition de 87 de l'ONU, c'est l'économie, le social et l'environnement. Si on veut aujourd'hui comprendre les enjeux écologiques et surtout trouver des solutions à ces enjeux, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur les questions économiques. Alors, elles sont complexes, elles semblent parfois inaccessibles. Nous, notre idée, c'est de les rendre plus compréhensibles, plus attrayantes et de les mêler aux enjeux écologiques.
Voilà, mais d'ailleurs, votre magazine s'appelait avant Terra Economica. Vous avez enlevé le
voilà, on a quand même
Mica
gommé
pour donner plus de place à Terra.
Terra Eco, c'est écologie, économie. Voilà. C'est le Terra qui est là et qui est important depuis le début. Et tout ça, c'est évidemment au service de l'homme, ça va sans dire.
Alors, à la une, ce mois-ci, la maison toxique, comment en sortir? Vous expliquez, dans les pays riches, nous passons entre 80 et 90% de notre temps à l'intérieur à respirer un bon air pollué.
Voilà, en deux mots, ce qu'on dit ou ce qu'on croit savoir, c'est que le problème de la pollution est atmosphérique, donc à l'extérieur, et en réalité, les tables, les chaises, nos produits de la salle de bain sont parfois très toxiques et la menace, elle est à l'intérieur.
L'air dans ce studio est donc irrespirable.
Probablement,
même si
on va
souligné.
Tous se tomber dans quelques instants.
Terra Eco, c'est aussi sur internet, sur le site
terraeco.net.
Merci Walter Bouvet d'être passé dans C'est pas du vent. Votre magazine de l'environnement revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous irons en Afrique où de nombreuses associations se battent sur le terrain pour préserver leur environnement. Vous verrez, elles peuvent être très aidées financièrement. À tout de suite.